Quand j'ai lu la série de livres intitulée « Le Seigneur des Anneaux », c'était en anglais. J'ai souffert à cause de la langue, mais aussi parce qu'il fallait en même temps que je me familiarise avec un autre univers et de surcroît fort complexe. Quand on découvre le livre de l'Apocalypse, c'est un peu pareil. Il ne faut donc pas s'étonner que pendant très longtemps, des siècles même, certains ont émis des réserves sur l'inspiration de ce livre. En fait, ces doutes reparurent avec la Réforme, car en effet, en publiant sa traduction du Nouveau Testament, Luther faisait précéder chaque livre d'une courte introduction. Dans l'édition de 1522, concernant l'Apocalypse, il écrit « Bien des choses me manquent dans ce livre et ne me permettent pas de le tenir pour apostolique ni pour prophétique. D'abord, les apôtres ne se complaisent pas dans des visions, mais prophétisent en paroles claires et nettes. Puis, cela me paraît exagéré que l'auteur recommande son livre si fortement qu'il formule cette menace. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Que chacun fasse de ce livre ce qu'il pourra. Pour moi, mon esprit ne saurait s'en accommoder, et j'ai une raison suffisante de ne pas l'estimer beaucoup quand je constate que Christ n'y est ni enseigné ni reconnu, comme un apôtre doit pourtant le faire avant toute chose. » Fin de citation. Dans l'édition de 1534, Luther s'exprime avec plus de modération, sans retirer toutefois son jugement défavorable. Il écrit « Nous avons laissé ce livre de côté à cause des obscurités de son origine et de sa composition, et en particulier parce que plusieurs anciens pères aussi ont exprimé l'opinion qu'il n'était pas l'œuvre de l'apôtre Jean. Nous partageons leurs doutes à son sujet. » Les théologiens luthériens gardèrent cette attitude négative à l'égard de l'Apocalypse jusque vers le milieu du XVIIe siècle. Chez les réformés, Zwingli déclara en 1528 à Berne que l'Apocalypse n'est pas un livre biblique. Et bien que Jean Calvin en cite des passages comme parole de l'Écriture, c'est le seul livre du Nouveau Testament qu'il n'a jamais commenté. Quant au réformateur Beza, il exprime des doutes sur son auteur. Pourtant, les confessions de foi réformées sont unanimes à ranger l'Apocalypse parmi les livres canoniques. Il faut dire que, comme l'a bien fait remarquer au IIIe siècle Denis le Grand, dont j'ai déjà parlé, les différences entre l'Apocalypse et les autres écrits de Jean sont indéniables, autant pour la forme que pour le fond. L'Évangile est écrit en un grec relativement pur, alors que l'Apocalypse fourmille d'hébraïsmes qui ne proviennent pas seulement des nombreux emprunts faits à l'Ancien Testament, mais qui semblent être dus à une faible connaissance de la langue grecque. Ces différences s'expliquent aisément si on admet que Jean a eu recours au service d'un copiste, un secrétaire, quand il a écrit l'Évangile et les Épîtres qui portent son nom, comme Paul l'a lui-même fait. Oui, mais quand Jean est en exil sur l'île de Patmos, aucun copiste n'est disponible, et en dépit des différences linguistiques et grammaticales, l'Apocalypse se rapproche davantage du grec des autres livres de Jean que celui de tout autre livre du Nouveau Testament. De plus, il existe beaucoup de parallèles remarquables entre l'Apocalypse et les autres écrits de l'apôtre Jean, non seulement dans les mots et certaines tournures de phrases qui reviennent souvent, mais surtout dans cette simplicité de construction grammaticale qui rend la phrase limpide et facile à comprendre, même celles qui décrivent les images les plus obscures de la vision de Jean. On retrouve ce double caractère du fond et de la forme dans les autres écrits de l'apôtre. Son langage est toujours à la portée d'un enfant, mais les pensées qu'il exprime demandent un réel effort pour les saisir. Quand on connaît l'Évangile et les Épîtres de Jean, et qu'on lit certains passages types de l'Apocalypse, il faut vraiment avoir l'oreille dure pour ne pas reconnaître le son cristallin de la voix de l'apôtre. Que ce soit dans l'Apocalypse, l'Évangile ou la première Épître, on retrouve cette même énergie et candeur propre à Jean quand il déclare sans ambiguïté qu'il a vu et entendu ce dont il parle. Jean est le seul auteur sacré qui, dans son évangile et l'Apocalypse, appelle Jésus la parole. Même chose pour la désignation du Christ comme l'agneau et un témoin. Même si ce n'est pas du mot à mot, la même citation du prophète Zacharie, « Ils tourneront leur regard vers moi, celui qu'ils auront transpercé », se trouve dans l'Apocalypse et l'évangile de Jean. C'est la même plume qui a façonné l'évangile de Jean et l'Apocalypse, car on y retrouve la même nature sensible, la même conception de Dieu, le même amour pour la vérité. Dès les premiers mots de son évangile, Jean nous parle des rapports insondables entre le Fils et le Père. Il voit, dans la rédemption, la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la vérité sur le mensonge, de la vie sur la mort. Jean est le plus qualifié des auteurs sacrés pour annoncer quel sera l'avenir du règne de Dieu, pour décrire, par des images saisissantes, la lutte sans merci que le monde livre à l'Église, et pour peindre le triomphe suprême de celui à qui l'Esprit et l'Épouse disent « Viens » et à qui Jean dit « Oh oui, qu'il en soit ainsi, viens, Seigneur Jésus !» On a argumenté que la douceur et l'amour tendre de Jean sont absents dans l'Apocalypse, dont les scènes grandioses et sévères dépeignent la colère de Dieu et ses jugements terribles. Mais l'apôtre, qui est l'auteur de l'Évangile et des Épîtres, n'est pas ce personnage faible et quelque peu efféminé que l'on s'imagine. Il est certes animé d'un grand amour, mais il a aussi en haine le péché sous toutes ses formes, ce qui lui fait exclure du salut quiconque n'est pas né de Dieu. Voilà pourquoi il annonce condamnation et châtiment divin à tous ceux qui ne croient pas au Fils de Dieu, et il traite certains de menteurs et d'autres d'enfants du diable. Il est évident que dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse est unique en son genre. Pourtant, la littérature juive avant la venue du Christ et la littérature chrétienne du premier siècle comptent beaucoup d'ouvrages similaires. Cependant, l'Apocalypse de Jean se distingue par sa relative sobriété et son message à la gloire de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement l'annonce d'une accumulation de catastrophes à venir, mais une affirmation du triomphe de Dieu qui d'ores et déjà intervient en faveur de son peuple. De plus, ce livre est signé par Jean qui affirme que Dieu lui a montré ce qu'il réserve au monde ennemi du Christ, tandis que les apocalypses juives et apocryphes sont anonymes et leurs auteurs attribuent leur révélation à l'un des hommes illustres et vénérés du passé comme Hénoc, Abraham, Moïse, Élie ou Esdras. L'apôtre Jean reçoit les visions prophétiques sous forme d'immenses fresques symboliques qui se déroulent autant sur terre que dans les cieux et qui font partie de ce monde invisible que l'œil ne peut voir et que le langage humain ne peut exprimer. Ainsi, Jésus ne se présente pas à Jean tel qu'il est vraiment, mais par ce qu'il a été ou en signalant ce qu'il va faire. Dès le début de la vision, le Seigneur apparaît sous un aspect surprenant, effrayant même, mais méticuleusement décrit. Plus tard, il est peint comme un agneau égorgé, placé au milieu d'un trône, ce qui le représente dans son double rôle de rédempteur et de roi. Ailleurs, il est un guerrier revêtu d'un manteau taché de sang et monté sur un cheval blanc, ce qui le représente dans le double rôle de conquérant et exécuteur des jugements de Dieu. Quand le ciel s'ouvre au regard du prophète Jean, il ressemble au temple de Jérusalem et les êtres vivants qui entourent le trône de Dieu sont décrits sous des traits qui sont difficiles à saisir et encore plus à reproduire. Il en est de même des êtres symboliques qui évoquent l'Église ou de la bête à sept têtes et 10 cornes qui représentent les puissances du monde qui luttent contre Dieu. Jean utilise aussi un langage propre à l'Ancien Testament, comme la montagne de Sion, la Nouvelle Jérusalem, Armageddon, Israël et ses 12 tribus, ou Babylone sur l'Euphrate, et les catastrophes qui frappent les hommes ressemblent beaucoup aux plaies d'Égypte. De plus, pour ses tableaux grandioses, Jean s'est inspiré des livres d'Ézéchiel, de Daniel et de Zacharie. Enfin, le nombre 7, très symbolique, est fréquent dans l'Apocalypse, qu'il soit cité ou qu'il faille le chercher. Et chaque fois que Jean déclare être saisi par l'Esprit de Dieu, il indique une transition dans la vision. Ses caractéristiques et le plan organisé de l'ouvrage montre que sous la conduite de l'Esprit, l'apôtre a travaillé les notes qu'il avait prises alors qu'il était dans un état de transe prophétique. Bien qu'il ait été inspiré par l'Esprit de Dieu, Jean fait preuve de ce défaut de perspective commun à tous les prophètes qui fait qu'ils voient ensemble sur un même plan temporel des événements qui ne doivent s'accomplir que sur de longs intervalles. Comme la plupart des auteurs du Nouveau Testament, Jean partage l'espérance des chrétiens de l'âge apostolique qui attendent, dans un avenir rapproché, le retour du Seigneur et la fin du monde. Jean démarre sur les chapeaux de roue, si je peux me permettre l'expression. En quelques lignes d'introduction, il nous informe sur l'origine, la destination et le sujet du livre. C'est une révélation confiée par Dieu à Jésus-Christ qu'il a transmise à Jean pour faire voir à ses serviteurs les événements qui doivent arriver. L'apôtre explique qu'il se trouve dans l'île de Patmos quand cette vision lui fut donnée. Jésus lui apparut sous un aspect si terrifiant qu'il tombe à ses pieds comme mort. Mais le Seigneur le rassure et se présente à lui en disant « Moi, je suis le premier et le dernier. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus annonce sa venue dans la gloire et commande à l'apôtre d'écrire à 7 églises d'Asie 7 lettres qui contiennent des censures, des éloges et des exhortations. Ensuite commence la révélation de l'avenir. Concernant la date à laquelle Jean écrivit le livre de l'Apocalypse, il existe 2 possibilités. Sa rédaction a eu lieu soit vers l'an 68, durant le règne de l'empereur Néron, soit pendant celui de Domitien à la fin du 1er siècle. La première date est surtout défendue par les théologiens d'obédience libérale parce qu'ils réfutent l'idée que Dieu aurait donné à l'apôtre Jean une révélation prophétique concernant la fin des temps. Ils considèrent donc que les événements décrits dans l'Apocalypse ont eu lieu au 1er siècle de notre ère, avant la destruction de Jérusalem survenue en l'an 70. Comme il n'existe pas vraiment de preuves objectives en faveur de la rédaction de l'Apocalypse pendant le règne de Néron, seule une exégèse contestable de certains passages du livre permet de défendre ce point de vue. C'est ainsi que l'anéantissement des Juifs par le général Titus serait la première étape de la seconde venue de Jésus-Christ. Par contre, Une rédaction tardive, vers la fin du règne de Domitien, du livre de l'Apocalypse par l'apôtre Jean, était la conviction de l'Église primitive. C'est aussi l'opinion d'Irénée, père de l'Église du second siècle, qui écrit « Il n'y a pas très longtemps que celle-ci, en parlant de l'Apocalypse, a été vue, mais cela s'est passé presque au temps de notre génération, vers la fin du règne de Domitien. » Les pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, Origène, Victorinus, Eusèbe et Jérôme, affirment également que le livre de l'Apocalypse a été rédigé durant le règne de Domitien. Tous ces témoignages seraient difficiles à expliquer si l'Apocalypse avait été écrit durant le règne de Néron. En fait, les arguments en faveur d'une date tardive sont fort nombreux. Quand l'apôtre Jean écrit sa vision, il est exilé sur l'île de Patmos. Or, on sait que cet empereur avait l'habitude de reléguer dans des îles désertes ceux qui avaient encouru son déplaisir. Cet exil de Jean est mentionné par Clément d'Alexandrie et par Origène. On sait que sous le règne de Domitien, l'Église souffre. Bien des croyants sont martyrisés et d'autres vexations pointent à l'horizon car les persécutions sont plus étendues que sous Néron où elles furent surtout confinées à la ville de Rome. Il s'ensuit que les descriptions du livre de l'Apocalypse correspondent mieux au règne de Domitien que de Néron. L'état dans lequel se trouvent les sept églises auxquelles Jean adresse ce livre joue également en faveur d'une date tardive. En effet, quand Paul a œuvré en Asie mineure dans les années 60 du 1er siècle, et selon les épîtres adressées aux Éphésiens, aux Colossiens et à Timothée, ces églises sont spirituellement dynamiques. Mais à l'époque où Jean rédige l'Apocalypse, la plupart d'entre elles sont en pleine déconfiture spirituelle et morale. Les chrétiens d'Éphèse ont perdu leur amour pour le Seigneur, et la fausse doctrine et des péchés grossiers sont tolérés dans la plupart des autres églises. Or, un déclin aussi marqué n'a pas pu se produire pendant la courte période entre la fin du ministère de Paul en Asie mineure et la fin du règne de Néron. Il semble bien plutôt qu'un long intervalle de temps, au moins une génération, s'est écoulée entre la disparition de Paul et la rédaction de l'Apocalypse. Ce n'est pas tout, car Jean mentionne les Nicolaïtes, une secte qui s'était infiltrée dans les églises d'Éphèse et de Pergame. Or, cette secte d'hérétiques n'apparaît nulle part dans les épîtres de Paul. Par contre, au moment de la rédaction de l'Apocalypse, les Nicolaïtes sont tellement répandus que Jean peut simplement les nommer sans donner la moindre explication. Comme il n'est pas concevable que ces hérétiques aient pu exercer leur influence dévastatrice sur les églises chrétiennes du jour au lendemain, c'est qu'il s'est écoulé beaucoup de temps entre l'époque de Paul et celle de la rédaction de l'Apocalypse. Un autre argument en faveur d'une date tardive est le reproche que Jésus adresse à Laodicée, l'une des sept églises auxquelles Jean écrit, de se considérer riche et n'ayant besoin de rien. Or, elle avait été dévastée par un fort tremblement de terre vers l'an 60 et durant le reste du règne de Néron, la ville s'est consacrée à sa reconstruction. Il est donc peu probable que ses habitants, et les croyants en particulier, aient adopté une attitude de suffisance. Par contre, une date pour la rédaction de l'Apocalypse, située vers la fin du 1er siècle, donne à Laodicée tout le temps nécessaire pour s'enrichir de nouveau. On croit également savoir que Smyrne, l'une des sept églises, n'a été fondée qu'après la disparition de Paul. Il n'est donc pas possible que cette église naisse, se développe puis décline Pendant l'intervalle qui sépare la mort de l'apôtre Paul et la fin du règne de Néron, survenu presque en même temps. Finalement, selon la tradition, Jean a quitté la Palestine pendant la révolte des Juifs contre Rome entre les années 66 et 70. Bien que Jésus l'ait appelé fils du tonnerre, 2 ans ou moins semble quand même bien trop court pour que son ministère irrite les Romains au point où il l'exile sur l'île de Patmos. En tout cas, ce bannissement d'un très vieil homme parce qu'il est prédicateur chrétien reflète une politique d'hostilité déclarée de la part de l'État envers l'Église. Cependant, on ne peut pas prouver que de telles mesures aient été prises par Rome contre les croyants avant le règne de Domitien. Par contre, on sait que ce dernier était farouchement opposé au christianisme et que le culte qu'on devait lui rendre avait force de loi et s'étendait à tout l'Empire, ce qui correspond bien à la situation que reflète le livre de l'Apocalypse. En effet, quand Jean écrit aux églises dont il a la charge, il pense à ce contexte particulier, celui du culte de l'empereur imposé à tous les chrétiens. À la fin du premier siècle, nul ne pouvait dire « Jésus est le Seigneur » et confesser « César est le Seigneur ». Or, cette dernière obligation menaçait la vie de tous les croyants de cette époque. Dans sa vision prophétique, Jean a vu l'aboutissement de cette exigence appliquée à la fin des temps, à savoir que l'humanité serait un jour partagée entre l'obéissance au Christ ou à l'Antichrist. Aujourd'hui déjà, l'homme doit choisir entre Jésus et l'esprit de l'Antichrist, fortement présent dans le monde.